Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en particulier aux personnes qui sont là pour la première fois. Une chaleureuse bienvenue à vous. Et on est content effectivement de pouvoir poursuivre cette étude sur l'épître aux Romains. Depuis maintenant un peu plus d'un an, nous avons à la maison un citronnier dont nous prenons soin. Nous avons quelques autres plantes, hein. Mais j'affectionne tout particulièrement ce citronnier. Ce que je préfère, c'est lui donner de l'eau, l'arroser, surtout par un temps pareil, hein. Et j'aime voir les prémices de ce qui constituera un beau fruit. En hiver, nous avons aussi veillé sur lui en le préservant du froid et du gel. Et en fait, nous sommes très contents de l'avoir parce qu'en un an, il nous a fait presque 30 citrons. Il arrive, je continue hein, ma leçon de jardinage, il arrive qu'il faille aussi couper certaines branches qui ne portent visiblement aucun fruit. En gros, notre citronnier, nous en prenons soin. Et dans le texte de ce matin, il est question d'un autre arbre, l'olivier. Dieu prend soin de cet olivier. Il retranche certaines branches et il en greffe d'autres qui proviennent d'un autre olivier. Il peut même regreffer des branches qu'il avait auparavant retranchées. Et nous en parlerons davantage tout à l'heure, mais d'emblée, nous comprenons par le contexte du texte que nous venons de lire que cet olivier est une métaphore pour parler du peuple de Dieu. Nous arrivons au bout de cette section qui a commencé au chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, où Paul explique à ses destinataires de Rome qu'il désire tellement que ses compatriotes, les Israélites, reconnaissent le Messie envoyé par Dieu et qu'ainsi ils soient sauvés. Mais le constat qu'il fait, c'est que beaucoup ont tourné le dos à Dieu, ont refusé ce message de l'Évangile auquel nous adhérons. Si d'un côté, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut, de l'autre, il apparaît clairement que quand l'homme refuse la main tendue de Dieu, il est entièrement responsable de son incrédulité. Bien que les Juifs aient entendu cette bonne nouvelle, ils ont refusé de croire, de mettre leur confiance en Jésus-Christ. Et ainsi se termine le chapitre 10 que nous avons vu la semaine dernière par cette citation d'Ésaïe, Ésaïe 65. À longueur de journée, c'est Dieu qui parle. J'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Un peuple qui n'en fait qu'à sa tête. Pourtant, voyez l'attitude de Dieu. J'ai tendu mes mains vers eux, mais ils n'ont pas voulu de moi. C'est pourquoi Paul commence notre chapitre 11 par cette question. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Après tant de tentatives à l'appeler à lui, est-ce que Dieu aurait finalement rejeté son peuple? Parce que après tout, on pourrait se le demander. Dieu aurait-il fait au peuple d'Israël des promesses de salut que finalement il n'a pas tenues? Et sans tarder, eh bien, l'apôtre Paul répond « Certainement pas ». Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ce serait une mauvaise lecture de la situation à l'époque de Paul. C'est vrai, une grande partie des Juifs ont refusé de croire en Jésus. Mais cette incrédulité n'est pas le signe que Dieu a complètement abandonné son peuple, avec lequel il avait autrefois fait alliance. Il y a encore, et nous le découvrons dans ce chapitre 11, un avenir pour les Israélites dans le plan de Dieu. Ce n'est pas mon propos ce matin de commenter ce qui se passe en ce moment avec Israël, au Proche et au Moyen-Orient. Bien qu'il soit impossible de l'ignorer, bien qu'il soit impossible d'être indifférent. Je suis l'actualité comme vous. Mais Paul évoque ici l'avenir d'Israël sur un autre plan, qui n'est pas d'ordre géopolitique, mais spirituel. La question est plutôt de comprendre ce que Paul veut dire ici dans notre texte quand il énonce que tout Israël sera sauvé. Et voici comment je compte détailler ce message ce matin. D'abord, dans un premier temps, en relevant à quel point le plan de Dieu peut nous étonner, nous surprendre. Et je relèverai plusieurs éléments qui doivent un petit peu nous interpeller et peut-être même nous étonner. Ensuite, je m'arrêterai sur les versets où Paul s'adresse spécifiquement à ses frères et sœurs non-juifs. Et il me semble que ces paroles-là, sous forme de mise en garde, peuvent aussi directement nous concerner. Et puis enfin, de la même manière que le chapitre 11 se termine, nous reconnaîtrons que le Dieu qui orchestre tout demeure hors de notre portée. Mais d'abord, ce plan qui étonne. Alors, il est courant d'entendre les chrétiens se demander « Quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour ma vie ?» Alors, ce n'est pas une mauvaise question, hein, et je pense qu'il est sage de se poser cette question-là avant même de se lancer dans des grandes décisions à prendre dans sa vie. Il vaut mieux cela que ne pas demander à Dieu et puis ne pas se poser cette question-là et chercher soi-même à diriger sa vie comme bon nous semble. Mais peut-être moins couramment, nous nous demandons quel est le plan de Dieu pour ce monde. Quel est le plan de Dieu pour la France? Quel est le plan de Dieu pour Israël? D'emblée, nous le voyons ici, Dieu répond moins à la première question « Quel est le plan de Dieu pour ma vie ?» qu'à la dernière « Quel est le plan de Dieu pour Israël ?» Et j'aurai l'occasion de le redire, mais si le texte de ce matin parle des Israélites, qui sont la préoccupation de Paul, cette question devrait aussi nous intéresser, parce que cela fait partie du plan de Dieu. Et justement, nous allons parcourir ce chapitre 11 en relevant 5 éléments qui pourraient nous paraître étonnants dans le plan qui nous est dévoilé. Et je dis étonnant pour qualifier en fait des choix que Dieu a faits et qui n'auraient sans doute pas été les nôtres si on était à la place de Dieu. Des choix qui peuvent nous questionner, des choix qui peuvent nous pousser aux limites de notre logique et de notre compréhension. Le premier élément est le suivant, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Malgré la désobéissance de beaucoup, malgré le refus massif de Jésus en tant que sauveur et seigneur de la part des Juifs, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Paul peut l'attester lui-même, il est israélite, il est juif, comme il le dit au verset 1. Il est de la descendance physique d'Abraham, donc c'est bien la preuve que Dieu n'a pas complètement rejeté son peuple. Lui qui a été auparavant le persécuteur de l'Église, qui est allé jusqu'à être, finalement, allé à l'encontre de la volonté de Dieu, comme tant de compatriotes. Eh bien, Dieu lui a quand même fait grâce. Alors oui, il est la preuve, avec d'autres Juifs qui se sont tournés vers Christ, que Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il avait choisi d'avance. Et Paul donne également une autre preuve avec les Écritures, avec l'histoire du prophète Élie. Dans un moment où le prophète était particulièrement abattu, menacé de mort, il pensait qu'en Israël, il n'y avait plus de fidèles, que tous s'étaient tournés vers les idoles, vers Baal. Et pourtant, Élie avait tort, puisque Dieu lui répond précisément que 7000 hommes lui sont restés fidèles. Non, Élie n'est pas le seul à rester fidèle à Dieu, 7000 autres sont aussi fidèles. Même dans les temps où une grande partie tourne le dos à Dieu, il y a un reste. Un reste que Dieu a choisi par grâce. Et Paul reprend un des thèmes qu'il a abordé plus tôt déjà. Et il le souligne encore au verset 6, cette grâce. Il le dit ici, c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Oui, si Dieu choisit de sauver des êtres humains, ce n'est que par grâce, indépendamment de ce qu'ils peuvent faire. Son élection ne prend en compte aucunement nos bonnes actions, nos bonnes œuvres. Il choisit avant même que nous fassions quoi que ce soit de bien ou de mal. Et c'est là ce qui doit nous interpeller encore ce matin. Dieu accorde sa grâce à des êtres pécheurs qu'ils ne méritent pas. Et ce message de la grâce est parfois si difficile à accepter dans une société où l'on insiste tant sur le mérite. On pourrait se demander, mais comment convaincre nos contemporains dans une société où on insiste tellement sur le mérite, sur la performance, sur la promotion de soi? Comment leur convaincre qu'en fait, Dieu offre sa grâce et qu'ils ne le méritent pas? Dieu ne choisit pas et ne sauve pas en fonction du mérite. Et il manifeste juste une grâce, une compassion qui ne se trouve en nul autre. Il n'y a qu'en Dieu que vous pouvez trouver cela. Donc oui, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Deuxièmement, le deuxième élément qui peut nous étonner, c'est que certains, parmi son peuple, le peuple d'Israël, sont endurcis. C'est ce que nous lisons versets 7 et 8. Qu'en est-il donc ? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu. Et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. Israël a cherché à être déclaré juste par Dieu. Comment l'a-t-il fait ? En essayant d'obéir à la loi. Mais comme nous l'avons vu la semaine dernière, cette voie est sans issue. Cette voie est vouée à l'échec, à la perdition. Chercher à être déclaré juste par Dieu, juste en essayant d'obéir à la loi, c'est voué à l'échec, parce que personne n'y arrive parfaitement. Personne ne peut réellement obéir à toute la loi de Dieu de manière parfaite. Nous l'avons même confessé tout à l'heure. Le seul moyen de pouvoir être déclaré juste par Dieu, c'est de pouvoir placer sa confiance en celui qui a parfaitement obéi. En celui qui est mort pour nos péchés à notre place sur la croix. En celui que Dieu a ressuscité en attestant la validité de son sacrifice parfait, Jésus-Christ. Ceux qui ont été choisis par Dieu sont passés par cette voie, celle de la foi. Et les autres ont été endurcis. Voilà ce qui est étonnant dans le plan de Dieu. Et Paul cite ici les Écritures, il cite ces textes d'Ésaïe 29 et Deutéronome 29, où on voit Dieu être le sujet du verbe « donner ». Oui, c'est étonnant, Dieu donne un esprit de torpeur. Il donne des yeux afin qu'ils ne puissent pas voir et des oreilles pour qu'ils ne puissent pas entendre. La souveraineté de Dieu ici est affirmée. C'est Dieu qui souverainement agit ici. Et ces mots traduisent un jugement de la part de Dieu à l'égard d'un peuple rebelle. Parce qu'ils ne veulent pas voir, ils ne verront pas. Parce qu'ils ne veulent pas entendre, eh bien Dieu les abandonne à leur surdité. Et s'ils n'entendent pas, ils ne comprendront pas. Et s'ils ne comprennent pas, ils ne pourront pas croire. Délibérément, et c'est ça qui est étonnant, certains parmi le peuple d'Israël sont endurcis. Et cela signifie que dès le départ, il faut l'affirmer, Dieu n'avait pas l'intention de sauver tout le monde parmi Israël. Seul un reste. C'est étonnant. Troisième élément qui peut nous surprendre, c'est que du fait que les Juifs ont été incrédules, ont refusé l'Évangile, ont rejeté Christ, eh bien cela a profité aux non-Juifs. C'est étonnant aussi qu'il a fallu ce faux pas, comme Paul l'indique, que finalement les Juifs finissent par rejeter leur Messie pour que derrière, effectivement, dans le plan magnifique de Dieu, il ouvre la voie aux non-Juifs. Et nous avons un exemple très concret dans le ministère de Paul. Lorsqu'il était à Antioche du Pisidie, Paul a prêché la bonne nouvelle dans une synagogue. Et beaucoup ont été convaincus en l'entendant. Mais à un moment donné, comme ça arrivait assez couramment, ce succès a suscité la jalousie des Juifs, qui ont commencé alors à insulter Paul. Et voici ce que Paul et Barnabas leur ont répondu. « C'était à vous d'abord, vous les Juifs. C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-Juifs. Mystérieux plan de Dieu, où le faux pas, l'incrédulité des Juifs, conduit à ce que les non-Juifs puissent accéder au salut. Et c'est l'idée que nous retrouvons dans notre texte. Puisque les Juifs ont rejeté ce cadeau que Dieu avait pour eux, la vie éternelle, eh bien Dieu a donné ce cadeau à d'autres, à ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Et la conversion des non-Juifs, le salut accordé à des non-Juifs, devrait provoquer la jalousie chez les Juifs, devrait leur donner envie d'avoir aussi ce cadeau. Et Paul espère, quand il évoque son ministère au verset 13 et 14, il espère que par son ministère auprès des non-Juifs, il va susciter cette jalousie pour que ses compatriotes aient envie aussi de se tourner vers Christ. Étonnant le plan de Dieu, de chercher à provoquer la jalousie de son peuple. Pour les uns, c'est un faux pas, une déchéance, une mise à l'écart. Ce sont les termes qui sont employés dans notre texte. Et pour les autres, il est question de richesse, de réconciliation. Grâce à leur faux pas, il y a eu richesse, réconciliation pour les non-juifs. Ça ressemble un petit peu à cette expression que nous avons en français, « le malheur des uns fait le bonheur des autres ». À la seule différence ici que les Israélites ont choisi leur malheur. C'est eux qui ont rejeté le cadeau de Dieu. C'est eux qui ont rejeté Christ. Et par leur faux pas, d'autres ont saisi ce cadeau que Dieu leur offre. Étonnant, le plan de Dieu. Quatrièmement, eh bien en fait, tout aussi étonnant, oui, il y a eu les faux pas des Juifs qui a permis au reste du monde d'être sauvé. Mais il est toujours possible pour eux de pouvoir se détourner de leur incrédulité et de se tourner vers Dieu, de se tourner vers Christ. Il est toujours possible pour eux de croire, de renoncer à cette incrédulité. Et plusieurs versets vont dans ce sens. Je mentionnais versets 12, 15 et 23. « Or si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. » Verset 15, « En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration ? Sinon le passage de la mort à la vie. » Et puis un verset 23 qui nous dit que quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, autrement dit, s'ils mettent leur foi en Christ, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Et là, on retrouve l'image de l'olivier que je veux reprendre. Si Dieu a retranché certaines de ses branches, c'est-à-dire ces Israélites qui n'ont pas cru, il peut de nouveau les greffer. Il peut de nouveau les remettre dans leur olivier d'origine s'ils mettent leur foi en Christ, s'ils croient que Jésus est bien celui qui leur permettra d'être déclarés justes. Ce n'est pas parce qu'ils sont Israélites qu'ils ont un passe-droit naturel. Eux aussi doivent mettre leur foi en Christ pour pouvoir être sauvés. Autrement dit, à travers ces versets, nous le voyons, tout n'est pas perdu pour les Israélites. Tout n'est pas perdu pour les Juifs d'aujourd'hui. S'ils reconnaissent qu'ils se sont trompés de voie. Et ce qui peut donc nous étonner, c'est que Dieu laisse encore cette possibilité à ceux qui l'ont rejeté. Il laisse encore cette possibilité à ceux qui étaient retranchés de pouvoir revenir, de pouvoir réintégrer l'olivier, de pouvoir réintégrer finalement ce qui constitue le véritable Israël, dont ils se sont eux-mêmes exclus. Est-ce que nous sommes étonnés par tout ça ? Oui, le plan de Dieu est étonnant. Pourquoi passer par tous ces chemins-là ? Un cinquième élément pour nous étonner d'autant plus. Un cinquième élément où on en vient à cette affirmation, tout Israël sera sauvé. C'est à la fois un élément étonnant, mais aussi difficile à interpréter. Paul parle d'ailleurs au verset 25 d'un mystère. Mystère d'un élément de la révélation de Dieu que seul Dieu peut nous faire comprendre et qu'il nous dévoile maintenant. Je relis les versets 25 à 27. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré, et ainsi tout Israël sera sauvé. Comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Pour le moment, les Israélites restent endurcis et ils rejettent majoritairement Jésus-Christ. Mais cela n'est pas destiné à durer. Un terme est prévu par Dieu jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Et cela renvoie à l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Nous le savons, nous ne sommes pas encore à ce terme où l'ensemble des non-juifs sera intégré au peuple de Dieu. Du moins, j'ai l'impression que la porte reste ouverte. Mais quand ce temps viendra, que l'ensemble des non-juifs fera partie du peuple de Dieu, quand tous ceux que Dieu a choisis parmi les non-juifs auront répondu à l'évangile par la foi, alors, verset 26, tout Israël sera sauvé. Et Paul mentionne tout de suite un texte de l'Ancien Testament en Ésaïe pour montrer que Dieu l'avait bien annoncé. Le libérateur dont il est question n'est autre, bien sûr, que le Seigneur Jésus. Et c'est effectivement lui qui sauve son peuple de ses péchés. Et c'est donc, en effet, par son sacrifice à la croix que les péchés sont pardonnés. Et c'est en mettant donc notre foi en lui que nous pouvons être sauvés. Et je dois le mentionner, bien sûr, cette expression que nous avons au verset 26, « Tout Israël sera sauvé » fait débat. On relève au moins trois interprétations, et je vous les livre. La première, c'est que soit il s'agit simplement d'Israël au sens très large du peuple de Dieu, qui va comprendre les juifs et les non-juifs. Dans ce cas-là, voilà, une fois que les non-juifs auront intégré le peuple de Dieu, tout Israël sera sauvé. Ça, c'est la première interprétation possible. La deuxième, c'est que cela désigne tous les Israélites qui ont cru et qui croiront au cours de l'histoire depuis l'époque de la Pentecôte. Et puis la troisième interprétation, c'est que au moment où l'ensemble des non-juifs fera partie du peuple de Dieu, eh bien, il y aura une conversion massive. Une conversion massive chez les juifs, qui pour l'instant restent minoritaires au milieu des chrétiens, mais à un moment donné, eh bien, une conversion massive aura lieu à la fin des temps. Et il ne faudrait peut-être pas comprendre ce tout Israël comme étant une totalité absolue. Mais réellement, en fait, tous ceux et celles qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Et personnellement, je suis plutôt convaincu par cette dernière option d'une conversion massive. Dieu n'en a pas fini avec les descendants physiques d'Abraham. Et Israël, dans l'histoire du salut, reste le peuple élu, les bien-aimés de Dieu, à cause de leurs ancêtres. C'est ce que nous lisons au verset 28. Dieu n'a vraiment pas rejeté son peuple, Israël, le premier qui a été choisi avant les autres nations. Et vous l'aurez compris, l'idée principale qui ressort du plan, de ce plan étonnant de Dieu, c'est qu'il a encore quelque chose en réserve pour le peuple d'Israël. Alors même que beaucoup ont rejeté Christ, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Et nous n'avons pas, il me semble, dans la Bible, une telle perspective pour un autre peuple, pour la France par exemple. Nous n'avons pas l'annonce d'une conversion massive du peuple français, bien que ce soit souhaitable. Mais Israël a vraiment une place unique dans le plan de Dieu. Et cela nous amène à considérer ce que Paul dit maintenant à ses frères et sœurs non-juifs. Une parole qui nous interpelle. Peut-être que jusque-là, je vous dis tout ça, comme certains chrétiens de Rome à l'époque, le sort des juifs nous importe peu. Qu'ils soient sauvés ou non, cela ne fait pas partie de nos préoccupations. Si nous voulons évangéliser, il est vrai que nous pensons peut-être d'abord aux non-juifs comme nous. Mais avez-vous déjà songé à prier pour que les Juifs, qui connaissent la même loi de Moïse que nous, qui connaissent les mêmes textes de l'Ancien Testament que nous, puissent comprendre que ces textes-là annonçaient la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce que nous nous préoccupons de cela ? En étudiant ce texte de Romains 11, j'ai été interpellé par l'importance qui était accordée à ce sujet. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de textes parallèles à celui-là. Mais je suis interpellé par l'importance qui est accordée à ce sujet. Ce n'est pas juste le fardeau de l'apôtre Paul qu'il partage ici aux chrétiens de Rome. Tout cela, comme nous l'avons vu, est en lien avec le plan de Dieu, avec ce que Dieu est en train de faire depuis des siècles dans l'histoire. Et je relis le verset 13. « Je vous le dis à vous qui êtes d'origine non-juive. » Et on peut se sentir interpellé aussi par cela. En tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ? Paul interpelle ses frères et sœurs non-juifs au sujet du salut qu'il devrait aussi souhaiter pour les Israélites. Il ne s'agit surtout pas de tomber dans le mépris ou dans la vantardise. Et Paul met en garde cela, versets 17 et 18. « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, le non-juif, qui était un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches qui ont été retranchées. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » Ne te vante pas si tu as mis ta confiance en Christ. Si tu fais partie maintenant du peuple de Dieu, ne te vante pas de cet olivier dont la racine est pour les uns les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et pour les autres, cette racine représente le reste d'Israël qui a cru. N'oublie pas que tu faisais partie d'un olivier sauvage, que tu ne faisais pas partie du peuple de Dieu et que tu as été greffé. Les non-juifs ont intégré l'Église qui était déjà composée de chrétiens d'origine juive. Nous avons tendance peut-être à l'oublier, que l'Église a commencé avec des juifs. Les disciples de Jésus étaient juifs. Bien sûr, Jésus lui-même était juif. L'apôtre Paul lui-même nous le rappelle, il est juif. L'Église a commencé avec les juifs. Et les non-juifs ont été greffés. Parce qu'ils venaient d'ailleurs, ils ne faisaient pas partie du peuple. Nous ne devons pas oublier cela pour pouvoir mesurer notre privilège en tant que non-juifs. Et nous rendre compte qu'on aurait pu ne pas être greffé sur cet olivier. En tant que non-juifs, nous devons nous rappeler que nous sommes semblables à ces branches qui ont été greffées sur l'olivier de Dieu. Et c'est vrai, comme nous l'avons vu, les non-juifs ont pu être greffés tandis que d'autres ont été retranchés. Et qui a été retranché finalement du peuple d'Israël ? Eh bien, tous les Israélites qui sont restés incrédules. Et je reparle brièvement de notre citronnier, parce que je n'ai pas fini d'en parler. Normalement, à chaque nouvelle saison, si nous voulons de nouveaux fruits, il nous faut guetter l'apparition des premières fleurs. Et si elles tiennent, normalement, ces fleurs deviennent un beau fruit. Mais ce que j'ai appris aussi entre-temps, c'est qu'il était nécessaire de cueillir les fruits mûrs de la précédente saison. Autrement, vous n'aurez pas de nouveaux fruits. Il fallait, en quelque sorte, retrancher les premiers fruits pour que d'autres puissent pousser. C'est un peu, ça ressemble un petit peu, en tout cas, à notre verset 19, qui dit, tu diras, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. Et Paul dit, c'est vrai, c'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Voilà un avertissement adressé à celles et ceux qui seraient tentés de se vanter Un avertissement qui est destiné à susciter une juste crainte de Dieu. Notre Dieu, qui a retranché les Juifs incrédules, peut faire de même avec les non-Juifs. Et le verset 22 qui nous dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, les incrédules, et bonté envers toi si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. » Dieu est à la fois bon et sévère. Mais ce matin, je veux t'inviter à considérer sa bonté, qui te permet de rester greffé à l'olivier cultivé, si tu restes attaché à la foi en Christ. Sinon, tu peux très bien être retranché. L'avertissement nous est donné ici. Que penser de cet avertissement ? Est-ce une manière de dire que nous pouvons perdre notre salut ? Je ne pense pas qu'il s'agisse de discuter sur cette possibilité de perdre ou non notre salut. Seulement, un tel avertissement doit nous garder de tout orgueil, de toute présomption. Un tel avertissement renvoie à notre responsabilité qui est de persévérer dans la foi. Si tu ne persévères pas, tu seras retranché. Il y a un avertissement. La question n'est pas tant de te demander si tu peux ou non perdre ton salut. Mais est-ce que tu vas demeurer dans la foi ? Et normalement, un tel avertissement devrait susciter l'effet suivant. Vouloir rester attaché au Seigneur par la foi. Compter constamment sur le Seigneur qui te garde. Et le verset 23 que vous avez là doit encore susciter en nous cet intérêt pour les Juifs de notre temps. Quant aux Israélites, je l'ai déjà lu, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Ces branches qui ont été retranchées, il peut de nouveau les greffer sur l'olivier. Cette semaine, de manière très concrète, en tant que non-juif, prends le temps de prier pour les Juifs, afin qu'ils se tournent vers Christ. Et peut-être parmi nos collègues, nos amis, parmi ceux qui nous soignent, mon dentiste est juif. Vous connaissez un ou plusieurs juifs. Prions pour leur salut. Ce n'est pas parce qu'ils sont israélites qu'ils ont un passe-droit naturel. Priez qu'ils fassent partie de nouveau, ou du nouveau en tout cas, peuple de Dieu. Un peuple composé de juifs et de non-juifs qui ont mis leur foi en Jésus. Ces dernières années, j'avais parmi mes étudiants une sœur d'origine juive à l'Institut biblique, que certains connaissent ici, et qui s'est tournée vers Jésus. Si elle est venue à l'Institut, c'est parce qu'elle s'était tournée vers Jésus. Et cela faisait plaisir de voir son émerveillement, parce qu'elle comprenait enfin le sens des Écritures, de ce qu'elle lisait dans l'Ancien Testament. Elle comprenait enfin que tout cela convergeait vers Jésus, son Messie et le nôtre. C'est ce que Dieu fait encore de nos jours. Il greffe de nouveau sur son olivier les Juifs qui croient en Jésus. Et c'est le sens du verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier ? C'est le plan de Dieu. Et ici, le texte de Romains 11 nous encourage à prier dans ce sens-là. Nous avons vu jusque-là comment Dieu a mis en œuvre son plan. Nous passons d'un reste d'Israël aux Israélites incrédules qui ont permis aux non-juifs d'entendre l'Évangile et d'être sauvés. Et nous passons de ces Israélites incrédules aux non-juifs qui ne doivent pas se vanter aux dépens de ceux qui ont été retranchés, parce que Dieu a le pouvoir de les réintégrer. Et d'ailleurs, si nous comprenons qu'il le fera massivement, Dieu a en vue le salut d'un grand nombre de ces Juifs. Non par mérite, ni même par naissance, mais uniquement par grâce. Et tout cela nous conduit naturellement à penser à l'auteur de ce plan, à l'auteur du salut, au Dieu qui orchestre tout. Et je serai plus bref sur cette partie-là. Mais lisons le verset 33. Peut-être vous pouvez le lire, juste avant le « en effet ». Allez-y. Oui, on peut s'arrêter là, le verset 33. Si le plan de Dieu a de quoi nous étonner, c'est parce que sa sagesse et sa connaissance sont hors de notre portée. Combien Dieu est riche en bonté, en grâce. Combien il ne choisit pas ses élus en fonction de leur mérite. Ses jugements sont insondables. Comment on peut comprendre cela? Paul cite Ésaïe 40. Il dit « Qui a connu la pensée du Seigneur ?» Ou « Qui a été son conseiller ? » Est-ce que Dieu a besoin que quelqu'un le conseille ? Bien sûr que non. Paul cite aussi Job 41. « Qui lui a donné le premier pour être payé en retour ?» Qui parmi nous peut réellement comprendre les choix de Dieu, sa manière de penser ? Il n'a besoin de personne. Il ne dépend de personne pour agir, pour décider. Au contraire, c'est lui qui est à l'origine de tout. Il y a nécessairement une part de mystère dans tout ce que nous avons évoqué. Quelque chose qui nous échappe, malgré nos tentatives pour comprendre. Parce que Dieu ne suit pas notre logique. Nous devons simplement reconnaître, avec l'apôtre Paul, que c'est avec sagesse que Dieu a pensé à tout ça. C'est avec sagesse qu'il a conduit celles et ceux qu'il a choisis au salut. C'est avec sagesse qu'il a mis à part initialement Israël parmi toutes les nations, pour que de ce peuple qui a tant de fois été désobéissant, tant de fois été infidèle, que de ce peuple naisse Jésus, le Messie qui est devenu le Sauveur du monde. C'est avec sagesse que Dieu a fait ça. Rien n'est comparable à cette sagesse-là. C'est avec sagesse qu'il a donné l'accès au salut aux non-juifs, alors que beaucoup d'Israélites l'avaient rejeté. Et s'il n'avait pas fait une de ces choses que j'ai mentionnées, nous n'aurions aucun espoir de salut, aucun espoir d'échapper à la condamnation qui nous revient de droit en tant que pécheurs. Mais Dieu l'a fait. C'est pourquoi nous devons prendre un instant maintenant pour nous émerveiller du Dieu qui a tout orchestré. L'histoire du salut telle que je l'ai brièvement évoquée témoigne que nous avons un tel Dieu aux voies impénétrables. Et c'est pourquoi nous lisons au verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Cette formule qui donne gloire à Dieu s'appelle une doxologie. Et nous ne pouvons que reconnaître que la gloire dans tout ce qui a été mis en place revient à notre Dieu. Tout ce que Dieu a fait, il le fait pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait dans l'histoire depuis le commencement doit nous conduire vers lui. Surtout, ne passons pas à côté de ça. Parce que cela signifie aussi que tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie doit te conduire vers lui. Doit te conduire à l'adorer. Doit te conduire à lui rendre gloire. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Ta vie aussi. Dieu est l'auteur, l'artisan de notre salut. Il est la cause de ta présence ici, dans son Église. Il est celui qui t'a greffé sur son olivier si effectivement tu as placé toute ta confiance en la personne de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi le Dieu trinitaire, et nous l'avons aussi dit un peu plus tôt lors du culte, c'est pourquoi le Dieu trinitaire mérite notre adoration. C'est pourquoi il mérite notre reconnaissance, une reconnaissance éternelle. C'est pourquoi il mérite notre amour. Comment on ne peut pas aimer un tel Dieu ? car c'est par grâce, par amour pour nous et pour sa gloire qu'il a agi de cette manière. Je conclus. Au terme des chapitres 9 à 11, nous avons touché du doigt le plan étonnant, renversant de Dieu. Nous avons mesuré combien ce plan nous dépasse. Au-delà des questions qu'on se pose à propos de notre propre vie, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Non, au-delà de ça, regardons à ce plan volumineux. Combien les choix de Dieu, de ce Dieu qui fait grâce, défient toute logique humaine. Dans son plan, comme d'autres l'ont dit avant moi, Dieu n'avait en vue qu'un seul peuple qui a commencé avec Israël, avec le reste fidèle, et auxquels ont été ajoutés, toujours plus nombreux, et tout au long de l'histoire, les non-juifs dont nous faisons partie. Dieu n'avait en vue et n'a en vue qu'un seul peuple, son peuple. Et puisqu'il est prévu par Dieu que tout Israël sera sauvé, nous ne pouvons nous désintéresser du sort du peuple juif actuel. Dans nos prières, il nous faut penser aussi à eux. Et il est certain, et je tiens à le dire, qu'au même titre que nous, ils ne méritent pas que Dieu leur fasse grâce. Et effectivement, si Dieu agit selon son élection, ce sera par grâce et non en fonction des œuvres. Enfin, soyons humblement reconnaissants de faire partie du peuple qui confesse le nom de Jésus, parce que notre place n'allait pas de soi. Mais telle est la profondeur incommensurable de la sagesse de Dieu. Lui qui a tout fait jusqu'à ne pas épargner son Fils pour nous faire entrer dans son merveilleux royaume. Alors à lui, et uniquement à lui, soit la gloire dans tous les siècles. Amen.